Alors, avant de revenir sur ton actualité directe, un petit retour sur le passé. Donc, ton contact avec la guitare maintenant dure depuis de nombreuses décennies.
C'est
Quel a
clair.
été ton premier contact avec l'instrument, soit au niveau sonorité, soit même au niveau tactile, toucher?
D'accord.
D'accord.
Bah écoute, le premier
Premier
truc,
truc.
je dirais que c'est Machine Head de Deep Purple.
D'accord.
Tu vois, avec Blackmore, j'ai vraiment. Je pense que Deep Purple m'a permis de m'échapper de Claude François et toutes les variétés qu'il y avait à l'époque en France.
D'accord. Et donc c'est le c'est voilà c'est ce, cette sonorité c'est soli
Ouais,
cette technique qui t'a
exactement. Exactement, cette énergie, tu vois, ce truc qu'on pouvait entendre enfin pour moi, dans mon cas, pour la première fois. Ouais. Et tu vois, ça, c'était vraiment, vraiment. Ouais, tu vois, je crois que le premier morceau qui m'a avant Smoke on the Water, c'était Highway Star. C'est ce disque-là, on me l'a offert style à un Noël, un truc comme ça. Et j'ai mis ça sur la platine. Tu vois, cette énergie, ce son plein, riche, puissant, ah, ça m'a scotché tout de suite, et puis après j'ai bouffé tout l'album. Je me suis débrouillé pour choper une guitare, et puis voilà, c'était parti, quoi.
D'accord. Et pour le justement pour le l'apprentissage de l'instrument, ça a été toi de ton côté en autodidacte à pratiquer ou t'as pris
Ouais.
des cours? Ça s'est passé?
Alors, autodidacte à 95%. Et j'ai juste, c'était les années lycée, hein, tu vois, et puis j'avais un copain qui prenait des cours avec un type qui s'appelle Patrick Duplan, ça s'invente pas, qui donnait des cours dans la MJC du patelin où j'habitais. Il m'a dit,
D'accord.
ouais, faut que tu ailles voir ce mec-là et tout. Et ce mec-là, quand je suis allé le voir, en fait, j'avais déjà vachement bossé, quoi. Et il s'est dit, bon, voilà, au niveau technique, je vais y apprendre, lui corriger deux, trois mauvaises manies. Mais ce qu'il a vu, tu vois, c'était surtout un mec qui était branché que hard rock, et dans le hard rock, que ça, quoi. Tu vois, un truc très réduit. Et j'ai pris, allez, cinq cours avec lui, quatre, cinq cours. Et le mec, il m'a fait bosser du classique, de la bossa nova, du blues. Du jazz. Donc en gros, c'était un morceau à chaque fois, hein, tu vois. Et ce mec-là m'a fait ça. Il m'a ouvert
C'est ça.
tout un monde. Et je pense que j'avais ça en moi, tu vois, de toute façon, tu vois, d'être plutôt dans l'ouverture. Mais il m'a fait gagner 10 ans. Il m'a fait gagner 10 ans. C'est le meilleur prof de guitare du monde. C'est plus qu'un prof de guitare, c'est un prof de musique pour moi.
D'accord. Là aussi, entre guillemets, pour tes grands débuts, je dirais plus sur un côté musicien professionnel. Donc, c'est d'après ce que j'avais lu début des années 80 quand tu intègres Marienthal.
C'est ça.
Finalement, en intégrant un groupe comme ça, à l'époque, quel espoir ou quelle espérance pour le futur tu pouvais avoir?
Ah, bah tu sais, quand je suis rentré dans ce groupe-là, j'avais quoi? J'avais 19 balais, un truc comme ça. Ça faisait en gros 2 ans, 3 ans que je jouais de la guitare. Donc j'étais débutant, mais comme je bossais 8 heures par jour, tu vois, t'imagines bien que ça m'a aidé à acquérir quelques notions techniques. Et ça m'a aussi aidé d'ailleurs à louper mes études. Parallèlement.
Ça
Mais
peut arriver, ouais.
oui, c'était pas très très grave. Donc ça m'a amené, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe qui a eu un petit succès dans une niche, quoi. À l'époque, la niche du hard rock était beaucoup plus étroite encore que maintenant, quoi. Maintenant, heureusement, ça s'est quand même vachement ouvert. Mais voilà, tu fais tes premières expériences professionnelles. Et puis, tu vois, j'étais dans des rêves. T'as 18 balais, t'as l'impression que enfin tu voudrais devenir tu voudrais devenir Richie Blackmore quoi, tu vois. Et puis tu t'aperçois très vite que déjà le boulot est déjà pris par Richie Blackmore. Donc je vois pas l'intérêt de faire d'essayer de refaire ce qu'il fait parce que déjà je le ferais en très mal et puis c'est pas intéressant, mais c'est plutôt d'aller chercher ce que moi j'ai en moi quoi. Donc du coup tu avec tous ces rêves que t'as la vie m'a montré que en gros j'en ai réalisé à peu près 20% de ce que j'avais comme rêve à l'époque, et les 80 autres %, mais je soupçonnais même pas que ça m'arriverait. Et c'est le bonheur de la vie. Et c'est 10 fois plus important. De tous ces 80%-là sont 10 fois plus importants, bien sûr, que les 20% que j'ai pu, rêver et accomplir d'une certaine façon.
D'accord. Autre élément, toujours un peu juste un peu à côté de l'album. Donc tu, au niveau de ton instrument, donc là tu joues sur une guitare Vola.
C'est ça.
Une Vola qui a été faite pour toi, une guitare signature. Avant, de mémoire, t'étais en lag.
C'est ça. Ils avaient la chance aussi qui m'avait fait aussi une signature.
Ouais. Finalement, quel relationnel tu as avec ton luthier, et quelle grande caractéristique toi tu cherches ou tu lui demandes pour ton instrument?
Tu vois, par exemple, quand on parlait des rêves, ça c'est dans les 80%. J'imaginais même pas, je savais même pas que ça pouvait exister ce genre de choses. Là, ce qui est vraiment super. Que ce soit avec Lac d'ailleurs ou avec Vola, c'est de pouvoir effectivement, comme tu l'as souligné, travailler en direct avec un luthier, découvrir les choses, parce que moi en lutherie je connais rien quoi, tu vois, c'est pas mon métier, moi je suis guitariste hein, c'est tout. Et donc tu vois voilà, à force t'apprends les spécificités des bois, des micros, etc. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir l'opportunité de pouvoir travailler. Tiens, essaye, on va essayer telle essence de bois avec ça, tu vois, ça marche et tout. Ce qui fait que, tu vois, dans le temps, par exemple, je me suis rendu compte que la touche ébène, pour moi, était quelque chose de vraiment fondamental, vraiment importante. C'est ce qui me va le mieux. Tu vois, le palissant d'être un peu trop tendre dans le son qu'il va te procurer. On sous-estime, tu vois, l'importance de la touche dans le son d'une guitare électrique. Et le maple est trop dur, il est très très brillant. Et tu vois l'ébène est pour moi un compromis idéal entre les deux. Ce genre de choses que j'ai appris en travaillant avec les luthiers. Tu vois ce que je recherche dans un instrument, c'est qu'il soit transparent. C'est-à-dire que l'instrument ne t'engendre pas un son duquel tu vas pas pouvoir te débarrasser. Style, tu vois, tu prends une Telecaster, j'adore les Telecaster, mais t'as le son Telecaster.
Ouais, c'est un son très marqué.
C'est très marqué. Moi, ce que je cherche avec une guitare signature, c'est d'avoir quelque chose qui va te permettre d'avoir ton propre son. La guitare ne t'amène pas dans une direction musicale. Style, voilà, tu utilises une Gretsch, tu vas faire tel type de musique, globalement, ça t'amène quand même vers un type de musique. Là, l'avantage, c'est que c'est une guitare qui a un son, qui va te laisser créer ton propre son. Ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est le truc idéal, quoi. Donc ça, et puis les choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, c'est l'ergonomie. Au niveau du volume et du sélecteur de micro, parce que je joue énormément avec le volume pour et les micros pour sculpter le son entre guillemets, et là il fallait vraiment que je les ai à portée de main, j'ai une toute petite main donc tu vois, il y a pas mal de guitares que j'ai style par exemple la Telecaster ou des choses comme ça, si je veux jouer avec le volume c'est un enfer. Les Les Paul que j'ai, je suis pas, tu vois, je veux bouger mon sélecteur de micro, je suis obligé de lâcher les cordes. tu vois, j'ai touché le volume aigu, c'est le deuxième en bas, enfin c'est un bordel quoi, tu vois. Et là j'ai vraiment tout à portée de main, ce qui fait que je peux en même temps, tu vois, bouger le volume et changer et bouger le sélecteur de micro. Ça pour moi c'est des choses vraiment caractéristiques de des instruments que j'ai eu la chance auxquels j'ai eu la chance de pouvoir participer.
D'accord, ok. Si on revient sur le donc nouvel album Welcome to a New World, finalement au moment où tu commences à travailler dessus et puis je voyais donc qu'il a été écrit entre novembre 2019 et avril 2020. Quelle idée ou quelle direction tu voulais prendre par rapport peut-être à Behind the Pix ou au travail précédent?
Ouais, ouais. Alors le premier truc que je dirais, tu vois, c'est que j'aime raconter des histoires dans les morceaux, qui soient une invitation au voyage. Tu vois, des morceaux comme Overlord, par exemple, ou En deux mois, pas mal de mes morceaux sont plutôt sur ce truc-là. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de musique de films, tu vois, de télé avec Thalassa, etc. Et ce côté cinématographique m'intéresse énormément, quoi. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien un jour proposer un voyage sur une heure. Et un voyage sur une heure, sur un album, bah, ça s'appelle un concept album.
Bah, oui.
Simplement. Voilà. Et c'est, je suis parti de ça. Après, tu vois le, j'ai ouvert l'ordinateur, machin. Enfin, tu vois, c'est très, très rare de studio, moi, quand j'écris. Et, donc j'ai eu ce premier morceau qui est venu, I Shall Never Surrender. Et j'avais déjà dans l'idée que tous les morceaux devraient être reliés par un sound design. Et donc à la fin de I Shall Never, tu as ce drone là un peu qu'il y a. J'écoutais ça, puis je prends ma guitare et je commence à faire pa 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 tagada. Et ça donne naissance en fait au deuxième morceau qui s'appelle The Grinch. Tout l'album en fait s'est fait comme ça. Tu vois, la fin de Grinch m'a inspiré le morceau d'après et le morceau. Tu vois, et ainsi de suite. Un peu comme un fil d'Ariane que tu tires.
Et donc t'as composé dans l'ordre.
Exactement. Exactement. D'accord. Ça s'est fait naturellement. Donc et voilà. Et j'étais, tu vois, quand j'écris, en fait, je m'enferme, tu vois, dans un gîte pendant 2 mois, 3 mois. Pour être vraiment focus à fond sur ce que je suis en train de faire. Et la composition de cet album-là s'est fait tout naturellement. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je pense que je prends la bonne décision. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, c'est ce qui vient. Je suis très spectateur de l'inspiration qui m'arrive.
D'accord. Donc, il y a 12 titres qui apparaissent sur l'album. C'est les 12 titres que tu as finalisé ou t'en as écarté au dernier moment?
Non, les 12 titres que j'ai gardés sont. J'en ai pas écrit plus de 12. Tu vois, après, il y a des fois, j'ai cherché 2-3 trucs, ça marchait pas, c'était nul, ça n'avait rien à faire dans l'album. Tu vois, voilà, je les exploitais même pas, hein, tu vois. Donc, mais vraiment, les 12 morceaux, j'en ai pas enregistré un de plus, rien n'a été écarté. Il est vraiment écrit, tu l'écoutes tel qu'il a été composé.
Quand tu disais, quand tu composes, donc tu t'enfermes, donc t'es vraiment, il faut l'inspiration du moment ou t'es du genre tout au long de l'année de noter des idées sur ton téléphone, des mélodies, et puis après tu donnes forme à l'ensemble?
Non, je fais. Ça peut m'arriver, tu vois, même d'écrire des bouts de texte, tu vois, machin, ou de noter une idée sur mon portable, tu vois, audio, même quand je roule, tu vois, chanter comme ça. En général, quand je réécoute, j'entends plus. Au moment où je le fais, j'entends toute la production autour et tout. Et quand je le réécoute, j'entends les beuglements d'un être ivre mort. Ça ressemble à rien du tout. Et en fait, à chaque fois que j'écris un album, je repars d'une page blanche. Tu vois ce que j'ai pu écrire, admettons. il y a 3 ans, on n'a tellement plus rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui que j'aurais trop l'impression de faire du recyclage.
D'accord. Donc, et là, encore une fois, bah, tu t'es entouré de tes camarades de jeu habituels. C'est important pour toi, en plus, je dirais, de la bonne entente artistique, d'avoir également une stabilité avec les gens qui t'entourent.
Ah ouais, quasiment le plus important. Humainement, cette équipe-là est absolument remarquable. On a une entente humaine. On a tous nos idées, tu vois, etc. Mais ensemble, on a vraiment une force qui se retrouve quand on joue. Simplement, tu vois, quand on est sur scène, tu vois, là on vient de passer 4 jours à faire la pré-prod du concert. Et ben, chaque fois qu'on attaque un morceau, on raconte la même histoire. Et ce qui pourrait paraître normal, mais ce qui est loin d'être le cas dans les groupes. Tu vois, c'est pas évident d'être là en l'occurrence les trois en phase sur le même truc, on raconte le même machin, on a la même on est dans le même moule quoi, tu vois, c'est super agréable de travailler avec eux. Et ça fait 6 ans hein, que je bosse avec Christophe et John. Et tu vois, contrairement aux autres albums où j'avais envie, où souvent j'ai des invités parce que j'adore les rencontres, j'adore, tu vois, me décaler les gens. Enfin, tu vois, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et mais là, cet album-là, dès le départ, avant l'écriture, je voulais vraiment retrouver le son du groupe live, et l'imprimer sur un disque. Et là, ça a été le cas, même au-delà de mes espérances.
D'accord. D'après ce que je lis, vous avez enregistré dans deux albums différents, dans deux studios, pardon, dans deux studios différents. L'un, c'était plutôt pour les batteries et puis pour les autres, ou c'est pour
Ouais, alors le gros de l'album, tu vois, j'ai loué un lieu de résidence dans une ferme, un truc, mais génial, c'est du côté de Anceny, Angers, dans ces coins-là. Et en fait, on s'est enfermé 3 semaines. Tu vois, on avait répété l'album avant. Et pendant 3 semaines, on a enregistré toutes les rythmiques. Et en gros, 70% de l'album est enregistré live. D'accord. Et après, tu vois, j'ai refait des doublages. C'est pour ça que je suis allé dans un autre studio. Refaire tous les doublages de guitare, les voix, etc.
Ok. En général, sur des parties de guitare, tu as une idée d'un moyenne de nombre de prises que tu réalises ?
Ça peut être assez énorme. Assez énorme. Je suis pas dans le trip, la première prise, c'est la bonne. Et alors, il y a des gens qui savent le faire. Hein. Moi, je sais pas le faire. Le temps qu'il y a des idées, j'y vais, quoi. Donc pour les rythmiques, je prends toujours un soin particulier parce que elles sont doublées, des fois triplées, des fois quadruplées, ça dépend de ce que j'ai besoin pour avoir de la texture différente, tu vois. Et pour les solos, alors là je peux en faire 10, je peux en faire 30, tu vois. D'accord. Et après je prends les meilleurs moments de chaque truc, je fais mon montage et après, je réapprends à jouer tout ça, ce qui fait que je me retrouve des fois dans des situations assez compliquées à gérer. Mais ce qui m'intéresse, c'est au moment où tu vois où je fais mes montages, je fais l'editing, c'est d'avoir le meilleur moment possible. Je m'en fous si guitaristiquement, je sais que je vais en chier comme une bête pour pouvoir le faire, mais bon, du même coup, ça me permet d'évoluer. Tu vois, guitaristiquement parlant, tu vois, pas me... Et puis, ça me permet de me sortir d'une zone de confort où tu sais que là, voilà, tu prends telle gamme, bah, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'accident, t'es tranquille. C'est quand même assez assez simple. Et en fait, après, quand je retravaille tout ça pour le live, bah, je m'aperçois que même les mélodies, des fois, mais t'as des trucs, mais c'est imbitable. C'est imbitable, quoi. C'est anti-guitaristique au possible. Et c'est chouette.
Est-ce qu'il y a un titre qui, pour toi, quand même, a posteriori, maintenant, avec les semaines et qui sont passées depuis la fin de l'enregistrement, il y a un titre qui ressort plus qui est plus cher à ton cœur que les autres?
C'est difficile. Je pense pas vraiment. Je pense pas vraiment parce qu'ils ont tous une, pour moi, tu vois, ils ont tous une signification particulière, ils ont tous ça. T'as pas deux morceaux qui se ressemblent. Bon, t'as un tronc commun évidemment à tout, mais ils ont tous leur saveur. Donc, je pense que je pourrais plus te dire ça quand on aura tourné ça sur scène un paquet de fois, et peut-être sur scène, il y en a un qui ressortira plus que l'autre, où on aura plus de sensations sur tel ou tel titre. Mais là, tu vois, au vu des répètes qu'on a fait, pour l'instant, bah ouais, ils ont tous chacun leur parfum, et du fait, c'est difficile d'en ressortir un par rapport à l'autre, puisque, tu vois, ils sont tous complémentaires pour moi.
Ok. Comment s'est fait le contact, finalement, le travail avec les différentes personnes qui ont fait qui font les voix, la narration? Donc, ouais. Des camps, etc.
Ouais.
Comment s'est fait le. C'est au culot ou tu les connais ou...
Je les connais. J'ai le culot de les connaître. écoute, Christian, par exemple, c'est un ami de longue date, quoi.
T'as beaucoup avec Ange, ouais.
Ouais. Pas avec lui, jamais joué avec Ange, hein, mais on a beaucoup fait de choses ensemble, et aussi à travers les opéras, ouais, à travers les opéras rock, Anne de Bretagne, Excalibur, tout ça, et puis, à un moment, moi, j'ai quitté Rouen pour habiter Belfort, et c'est là que j'ai rencontré Christian, et j'étais déjà fan, moi, de Ange, tu vois, avant. Pour l'anecdote, toi, je me suis retrouvé à l'époque dans un groupe qui s'appelait Road 66, qui était un groupe un peu en perdition, tu vois, voilà, où c'était une période où tous les excès étaient présents. Et j'étais un peu en perdition et je me suis retrouvé dans ce bistrot-là et fan de Ange, et je les vois, ils étaient en train de reparler de la reformation de Ange. C'était incroyable. Et le soir même, tu vois, on jouait dans ce bistrot-là. Et puis on a tapé le bœuf avec Francis, puis après avec Christian, etc. Et ça a été des rencontres mémorables. C'était pour la petite histoire, pour la rencontre avec Christian. Et les autres, tu vois, c'est des par exemple, j'ai une copine qui parle en allemand dedans, qui est devenue une copine qu'on a rencontrée sur Excalibur. Tu vois, elle était au catering, tu vois, s'occuper du bar artiste et tout. On a sympathisé, on s'est marré, on s'est revu plein de fois. En gros, à chaque fois que je vais jouer du côté de Munich, elle est dans les parages et puis on est resté en contact. Pareil avec Iae, la copine japonaise, quoi. Il y a Zoran aussi, qui est un franco-serbe. Et je me suis dit, ce serait sympa d'avoir du serbe là-dessus. Et l'idée, en fait, de toutes ces langues différentes est vraiment pour souligner, en fait, le caractère universel du sujet. Tu vois, nos faces, c'est toi, c'est moi, ça peut être un mec, une nana, tout ce qu'on veut, on s'en fout, quoi, tu vois. Et c'est pas... voilà, je pense que le sujet de nos faits, ce type qui s'est construit pour une partie de sa vie dans la peur et qui va passer son temps pendant l'album à recouvrer ses sens parce qu'il s'est tellement enfermé que l'extérieur pour lui n'existe plus. Et ça, c'est un sujet absolument universel. C'est quelque chose qu'on a tous en nous, quelque part, sans le Tennessee.
Pour conclure sur la partie technique de l'album, bon, t'es connu pour avoir toujours extrêmement soigné mixage, mastering. Là, à nouveau pour le mastering, donc t'as fait appel à Bérot Studio à l'emploi. Ouais. Quelle importance ça a pour toi?
Ah, c'est énorme. Je pense que les gens ne connaissent pas en fait le boulot du mastering. Hein, tu vois, même souvent chez les artistes, hein, tu vois, ils sont pas si t'as jamais assisté à un mastering, tu te rends pas compte du travail. Le travailler avec Alex Wharton, c'est le quatrième album hein, que je masterise avec lui. On est devenu déjà potes, et puis il connaît très très bien là où je veux aller. C'est quelqu'un qui aime bien être surpris, tu vois, entre les quatre albums qu'il a masterisés, il y en a aucun qui se ressemble dans le contenu. Et ça, c'est quelque chose qu'il aime bien. Et vraiment, je dirais, tu vois, que le, il augmente la qualité sonore. Allez, il fait gagner 40% par rapport au mix.
Mais donc il fait une proposition, par exemple, sur un ou deux titres témoins, et puis après, tu valides ce qu'il propose ou?
Bah là, ce qu'on a fait, comme on se connaît bien, et d'habitude, je suis avec lui dans le studio. Hein. Mais là, vu les conditions, je pouvais pas y aller. Quoi. Mais comme on se connaît bien, tu vois, il a masterisé tout l'album. Il m'a envoyé pour écoute en me disant, bah écoute, si tu veux que je change, tu me dis, etc. Bah sauf que j'ai tout écouté, puis j'ai dit, mais tu veux changer quoi exactement? C'était vraiment parfait, quoi. Vraiment parfait. Il a fait un boulot. C'est un sorcier, hein, ce mec. Hein. C'est un vrai artiste et voilà quoi. Pour moi, il fait partie du top 10 des mecs qui masterisent dans le monde, quoi.
Le bordel sanitaire actuel, en fait, il a démarré alors que tu finissais l'enregistrement. Vous étiez en plein dedans au moment de l'enregistrement. Est-ce que tu trouves que d'une façon ou d'une autre, ça a eu un impact sur l'album lui-même?
Alors, oui, je pense que oui. Oui, bah ça, évidemment, normalement, cet album-là aurait dû sortir en septembre 2020, donc un an de retard. Pour l'écriture, ça n'a rien changé parce que tout était écrit avant. Après, pour les, j'ai fini d'écrire la musique fin janvier. Après, on avait normalement les tournées avec les trois pattes, avec Patrick Honda, Mac Manus et moi. Tu vois, ce qui fait, tout s'est arrêté d'un seul coup. Là, pendant la période, on a annulé quasiment 50 dates, quoi. Tu vois, ce qui est énorme. Et après, on a pu répéter cet album-là, en fait, qu'en septembre 2020, pas avant, quoi. Tu vois.
Et c'est ça, oui.
Ah ouais.
Il y a eu un gros
blanc, ouais. Ah ouais, il y a eu un gros gros blanc. Et je pense, tu vois, autant le Covid n'a eu aucune incidence sur l'écriture, même de l'album, mais sur l'énergie qu'on a mis dedans, je pense qu'il a un parfum particulier. Je pense qu'il n'aurait pas eu le même parfum. Ça aurait été grosso modo, de toute façon, les mêmes morceaux, hein. Mais dans l'énergie. Je pense que ça a encore renforcé la cohésion du groupe, tu vois, et l'énergie qu'on avait envie de développer, quoi. Je pense que
c'est marquant. C'est peut-être un peu cliché, mais il y a plusieurs artistes qui disent comment on a été privé de ça. Et quand au bout de X semaines ou X mois, on se retrouve à nouveau, il y a une espèce de nouvel enthousiasme qui se crée. Parce qu'on on a quasiment tous peur que tout ça s'arrête définitivement. Ouais, ouais. Finalement, on est content de se retrouver, quoi.
Ouais, complètement. Je confirme le truc. Hein. Il y a une espèce de phénix qui arrive, quoi. Au moment où tu te retrouves, tac, ça renaît. Là, et puis ça redevient toute neuve. C'est une nouvelle page qu'on écrit avec la connaissance du passé qu'on a eu. On part pas vierge, mais on écrit une nouvelle page. Et je pense que le Covid a eu cet effet-là, ouais. Oh, c'est.
Dernière question parce qu'on arrive au bout.
Pas de problème.
L'album sort dans 8 jours. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qu'on peut souhaiter?
Ah bah me souhaiter, c'est tout le bien possible.
Ça c'est normal, c'est fait.
La première date, le premier concert de sortie d'album est à Paris le 22 septembre au Café de la Danse. D'accord. Donc ça, je peux qu'inviter les gens à venir voir ce spectacle-là, parce que là, on va jouer tout l'album dans son intégralité, avec une scénographie, de la vidéo, enfin, on prépare un spectacle entier. Ouais, l'idée, c'est vraiment de proposer un spectacle et d'emmener les gens comme ça dans ce voyage pendant plus d'une heure. Après, on va faire une petite... pas pause, hein, tu vois, après, on va faire un petit rappel qui va durer à peu près 40 minutes. On va jouer des anciens titres que les gens ont envie de retrouver, et puis que nous on a envie de jouer, quoi, et de repartager tout ça et de recommunier dans le sens non christique de l'affaire avec les gens, retrouver tout le monde. Et puis ce concert là d'ailleurs va être aussi l'occasion de faire gagner une guitare Vola pour les gens qui vont venir au concert avec leurs billets. On va faire une loterie, tu vois, avec les gens qui seront présents, et celui qui gagnera va repartir avec une belle guitare Vola, d'une valeur de 2000 euros quand même.
Ah oui, joli, ouais. Et donc à partir de septembre, ce concert pour démarrer et puis une tournée qui suit.
Et une tournée, voilà, on a une vingtaine de dates pour l'instant de Calais, et puis là ça va rentrer, ça va continuer à rentrer. Après il va y avoir les festivals l'été prochain. Et puis dès qu'on peut repartir à l'étranger, on va en profiter pour aller, en Allemagne, Italie, Espagne, Belgique.
Bien sûr, c'est l'Europe. Hein, ouais. D'accord.
Ouais.
Bon, écoute, super. En tout cas, c'est le meilleur qu'on vous souhaite. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde 22 septembre au Café de la Danse pour ce premier concert. Et puis, on te suit sur les réseaux sociaux pour avoir la suite.
Merci, c'est génial.
Merci beaucoup. Allez, à bientôt.
Ciao.